Est-ce que vous êtes en train de regarder votre téléphone en ce moment? Est-ce que, chers auditeurs, vous écoutez les années-lumière tout en échangeant avec vos amis Facebook ou tout en jouant à un jeu vidéo? J'espère que non, parce que les années-lumière, ça mérite mieux que ça. Mais si c'est le cas, c'est pas très étonnant parce que vous êtes dans l'air du temps. Au Québec, par exemple, en 2014, plus d'un adulte sur deux possédait un téléphone intelligent, selon l'organisme de recherche et d'innovation, le CEFRIO. Ça, c'est une forte progression. Depuis 2010, à l'époque, c'était à peine 17%. La tablette numérique, on le sait, devient de plus en plus populaire. Puis ces outils fort utiles, bien sûr, mais ludiques aussi, gagnent tous les âges, y compris les adolescents et même les enfants, qui naviguent maintenant couramment sur 4, 5 applications en même temps. C'est envahissant parfois. Est-ce qu'on les utilise trop? Est-ce qu'on peut même développer une dépendance à ces drogues-là, Myriam Fabry? Grande question, hein?
En effet, ouais. On peut y voir simplement de mauvaises habitudes, mais à partir de quand c'est une dépendance?
Ouais. Lucia Romo, qui est professeure de psychologie clinique à l'Université Paris-Nanterre. Donc, ce qu'elle nous dit, au fond, en plus de faire la comparaison avec l'alcool, ce qu'elle nous dit, c'est que ça peut toucher des gens qui s'ennuient, mais aussi des professionnels hyper connectés, surmenés. Ça peut toucher un peu toutes sortes de monde.
Hein. Ça donc, peut toucher tout le monde. Et ce qu'on observe chez les personnes en traitement, c'est que c'est lié souvent à une anxiété également, une faible estime de soi, une tristesse, voire une dépression, comme si Internet devenait un refuge. Chez les adolescents, une étude a été menée au Québec par Magali Dufour auprès de jeunes de 15-16 ans qui, justement, se trouvaient en traitement dans des centres de réadaptation au Québec. Elle est psychologue également, professeure à l'université de Sherbrooke, directrice des programmes de maîtrise en intervention en toxicomanie.
Pour les jeunes, vous avez dit 15-16 ans, c'est ça?
C'est bien ça.
Qui sont vraiment... Alors des jeunes quand même, il faut le dire, qui consultent, hein, une minorité j'imagine, qui arrive à ce point-là, au point de devoir consulter. Proportion des jeunes, des adolescents qui seraient à risque, Myriam, est-ce
alors,
qu'on le sait?
Oui, Magali Dufour a fait une autre étude,
cette fois
auprès de 4000 élèves du secondaire, 3, 4 et 5. Donc ce sont des jeunes âgés de 14 à 17 ans. Et cette étude a permis de constater que 1,3% souffraient de dépendance à Internet.
Oh, oui.
40% se trouvaient à risque.
C'est beaucoup, hein.
C'est beaucoup. Et d'ailleurs, la chercheuse a des doutes sur l'outil qu'elle a utilisé pour détecter la dépendance à Internet. Un outil qui s'appelle IAT. C'est peut-être pas tout à fait au point. Et elle travaille d'ailleurs à élaborer un autre questionnaire avec des chercheurs suisses et français, dont Lucia Romo, qu'on a entendu tout à l'heure. Mais ce qu'elle a découvert d'intéressant, c'est une différence aussi entre filles et garçons. Ils ne sont pas accros au même type d'application. On l'écoute.
Donc, chez les garçons, on va parler beaucoup de jeux, 95% des garçons ou 92% des garçons. Par contre, nos filles qui ont été détectées comme étant dépendantes, elles, leur application préférée, on était dans tout ce qui est réseaux sociaux et ensuite on était dans YouTube, dans le streaming. Donc, tout ce qui est beaucoup plus un aspect social. On a plusieurs histoires de cas de jeunes filles nous parlant de leur obsession, des réseaux sociaux, de leur perte de contrôle de cet outil-là, au détriment de choses qu'ils faisaient avant. Donc, au détriment de sortir avec leurs amis, au détriment de parfois même de leur étude, d'autres loisirs, de leur vie hors ligne.
Alors c'est curieux Myriam, parce qu'on dit que ces instruments-là nous permettent de communiquer, qu'on a plein d'amis Facebook, etc., qu'on échange des trucs. Et là, on est en train de nous dire que ça nuit à la socialisation en fait.
Exactement, les jeunes socialisent en ligne, mais beaucoup moins en contact avec l'autre face à face.
Oui.
Alors ils se sentent très compétents en ligne, mais moins compétents et même incompétents parfois hors ligne. Les cliniciens constatent un retard en matière de socialisation. Ils appellent ça une dette de temps qui peut être même difficile à récupérer, ce qui peut être un handicap ensuite pour entrer sur le marché du travail.
Sans aller dans des cas extrêmes, comment est-ce que l'usage du téléphone en question dit intelligent, de la tablette, ça, comment est-ce que c'est en train de transformer nos rapports sociaux? On ne parle pas de pathologie, mais de nos rapports sociaux.
Ça les transforme, effectivement. C'est un sujet fascinant pour les sociologues.
Oui.
Il y a de bons côtés et de moins bons, que va essayer de nous résumer Sylvia Kérouz, professeure à l'Université Concordia. Elle dirige un laboratoire de recherche sur le style de vie et les dépendances.
Il faut pas nécessairement dramatiser parce que c'est sûr que ces technologies-là, moi, je pense qu'il y a un énorme avantage. pensons aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui trouvent le temps très long, qui sont socialement isolés. Je pense que les technologies donnent un outil incroyablement puissant pour se connecter au monde et se réseauter. Ça sert d'autres fins aussi. Toutes les démocraties qui ont été initiées, en tout cas, pensons entre guillemets que c'est des démocraties, mais en tout cas, il y a eu des mouvements sociaux qui ont été alimentés par les nouvelles technologies et la connexion. Mais une des préoccupations, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un risque que ces gens-là s'investissent moins dans leur environnement réel? On est en transformation, mais pour l'instant, je vous dirais que les communications orales, en présence ou avec la voix, on la perd, cette communication, et elle est très importante. On dirait que les communications passent toujours par un objet interposé qui est soit l'ordinateur, soit la tablette, soit le téléphone. Est-ce que ça brise? Est-ce que ça élimine certains aspects fondamentaux qu'on cherchait dans nos communications humaines? Est-ce que ça rajoute quelque chose de plus, qui répond plus aux besoins des jeunes de notre époque? Ces nouvelles technologies, la présence d'Internet, a un effet certain sur une redéfinition de la relation des personnes à autrui, comment la vie de tous les jours se structure. Prenons un exemple. On est dans le métro, on est dans l'autobus, on peut être à la même place, on partage le même trajet pendant 30 minutes et on n'a aucune connaissance de qui est autour de nous, on n'a aucune conscience de ce qui se passe. On peut être complètement hypnotisé par ce petit outil technologique qui est le téléphone ou la tablette, etc. On peut être beaucoup plus connecté avec quelqu'un qui est à 10 000 km de nous en présence physique que quelqu'un qui est assis à côté de nous, sur le siège juste à côté. Donc, forcément, il faut repenser les rapports sociaux.
Remarquable analyse, hein. Myriam, c'était la sociologue Sylvia Kérouz, Université Concordia. Domaine quand même de recherche récent, forcément.
Oui, tous les experts qu'on vient d'entendre ont cette humilité de le dire. On a encore très peu de recul. On a à peine 6 ans de regard critique sur le téléphone dit intelligent.
Oui, alors donc, il y a encore du travail à faire. Myriam, merci beaucoup.
Merci Yannick.